Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour ce débat. Tout le monde, on s'entend bien, hein ? Je me rends pas trop compte. Ok, donc on va ce soir, on a la chance d'avoir trois intervenants qui sont tous trois engagés dans le milieu associatif à Gennevilliers. Donc Kamel Seil du collectif Réciprocité, Samia Gasmi de l'association La Fabrica et Thierry Moulin qui est habitant des Grésillons et bénévole au Copo d'Abord qui sont les personnes qui gèrent les ateliers du carnaval que vous avez juste derrière vous qui sont donc dans la halle des Grésillons. Donc nous on est ici ce soir dans le cadre de la preuve par 7 qui est une démarche expérimentale d'architecture et d'urbanisme qui est menée à Gennevilliers pour en fait réouvrir la halle des Grésillons et trouver avec les habitants et les acteurs locaux de nouveaux usages qui pourraient être adaptés dans la halle des Grésillons et qui pourraient répondre aux besoins du territoire. Et donc pour ça on a ouvert une permanence qui se trouve, si vous ne la connaissez pas, juste derrière Place Indira Gandhi au 13. Où je suis présente donc tous les mardis et mercredis. C'est donc l'endroit, en fait, le point de repère où vous pouvez venir pour raconter votre expérience des Grésillons, pour donner vos idées sur le projet. Enfin, si vous avez quel que ce soit à suggérer, vous pouvez venir dans cette permanence. Et parallèlement, on organise donc des rencontres mensuelles sur des thématiques qui sont liées à des acteurs locaux en faisant intervenir des personnes. Et en essayant d'ouvrir le débat avec les habitants sur ce qui serait intéressant de faire dans la halle et en quoi ces interventions nous ont permis de trouver des idées, de trouver des associations entre les acteurs, des synergies qui pourraient faire en sorte de faire des projets dans la halle. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont nous raconter en fait rapidement un peu ce qu'ils font à Gennevilliers et après on pourra en discuter ensemble. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer.
Je me présente, donc Samia Gasmi, présidente de l'association La Fabrica, qui est installée au Lude depuis 2017. Donc c'est une association qui a vu le jour avec l'initiative d'un certain nombre de personnes qui souhaitaient un petit peu agir ensemble sur les questions de développement durable ou d'insertion. Donc c'est des amis qui se sont réunis autour d'un projet où on se disait que l'idée de pouvoir agir sur l'éco-citoyenneté, avoir des gestes responsables, initier nos enfants à ces gestes-là et par ailleurs utiliser cette activité comme une activité support d'insertion pour des publics en recherche de situations professionnelles ou de retour à l'emploi. Donc on a tenté de trouver un espace où installer notre activité. C'est vrai que le Lute nous a paru être le lieu le plus naturel pour s'y installer puisqu'il y avait déjà un certain nombre d'acteurs qui existaient déjà sur place et il y avait un pôle d'économie sociale et solidaire et c'est vrai que ça nous a donné envie en tous les cas de les rejoindre. Et puis bien évidemment il y avait aussi un espace pour nous accueillir puisque France Habitation, le bailleur qui était sur place, nous a accompagnés ainsi que la ville dans l'installation de cette association. Donc aujourd'hui on a une boutique solidaire au Lute que vous connaissez peut-être pour certains. C'est une activité qui consiste à collecter, récupérer des objets, des vêtements, des livres, de la vaisselle, enfin tout ce qui peut être récupéré, des meubles aussi, pour leur donner une seconde vie. Donc les gens on collecte de différentes façons, soit sur de l'apport volontaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens nous ont identifiés et ont bien compris qu'on pouvait récupérer un certain nombre de choses, donc qui nous apportent régulièrement des sacs avec tous ces objets-là, qui font l'objet d'un traitement, donc d'un tri, et puis ensuite d'une valorisation. Et là-dessus, on les remet en vente à prix solidaire dans la boutique ou bien on les recycle. Quand on ne peut pas les mettre en vente, on travaille avec certains partenaires sur des filières de recyclage. Ça peut être le relais pour les vêtements, ça peut être écomobilier pour les mobiliers qui sont trop abîmés et qui ne pourraient pas être remis en vente. Mais on constate quand même que les gens nous apportent des choses plutôt de bonne qualité, puisque par ailleurs, ils sont eux-mêmes clients de la boutique et donc très respectueux des objets qu'ils apportent. Et ils comprennent bien qu'on n'est pas une déchetterie, mais qu'on est vraiment une boutique solidaire. On a vraiment voulu cette boutique comme étant un lieu joli. Je ne sais pas si certains sont déjà venus la visiter, mais ça nous paraissait important de faire un lieu qui soit beau. D'une part, parce que je trouve que c'est respectueux aussi des gens et du quartier que d'ouvrir quelque chose qui soit, voilà, qui soit joli. Mais par ailleurs, pour expliquer aussi aux gens qu'avec des choses qu'ils ont déjà vécues, on peut aussi, en leur donnant une seconde vie, ça peut être très beau. On a donc cette boutique. On a également un atelier, deux ateliers. Un atelier ouvert au public où là, on apprend aux gens à détourner les objets, à leur donner une seconde vie, à transformer les choses. On fait des pnoufs, on fait des lampes à partir des lampes particulières à partir de palettes. Voilà, on a une programmation qu'on renouvelle régulièrement et les gens viennent participer à ces ateliers. Voilà, donc c'est ouvert au quartier. Et puis par ailleurs, on organise aussi des ateliers hors les murs où on va à la rencontre des gens dehors du quartier du Lude, puisque ce n'est pas la ressourcerie du Lude, c'est bien la ressourcerie de Gennevilliers. Voilà, donc pour ce faire, on recrute des personnes qui sont en insertion, qui ont besoin, qui ont une rupture à un moment donné dans leur parcours et qui ont besoin de trouver un espace pour pouvoir repenser leur projet professionnel, reprendre des habitudes de travail pour certaines mamans qui ont arrêté des fois pendant plusieurs années pour élever leurs enfants, donc pouvoir remettre un pied à l'étrier et leur donner la possibilité pendant le temps, on a la possibilité de les accueillir sur une période de 2 ans. Et donc, alors ça peut être beaucoup plus court, hein, puisqu'on a des personnes qui retrouvent un emploi plus rapidement, et puis d'autres qui ont vraiment besoin de ces 2 années pour pouvoir apprendre à se lever le matin, se dire que il y a un responsable qui donne des directives et il faut pouvoir les respecter, respecter les horaires, enfin voilà, toutes ces choses qui sont liées au cadre de travail avec un contrat de travail. Et donc pour ce faire, on a un encadrant technique qui est là pour leur apprendre les gestes. Et ce qui est intéressant dans la ressourcerie, c'est que l'activité permet de proposer une palette de métiers très large. Pour nous, on a vraiment voulu créer des postes qui soient très polyvalents. C'est-à-dire que quand on rentre à la ressourcerie, on n'est pas vendeur ou à la logistique ou à la création, on est agent polyvalent de ressourcerie, de façon à ce qu'il y ait une rotation avec un planning qui tourne et qui permette à chacun de pouvoir être une semaine sur la vente, une semaine à la collecte, une semaine à la valorisation et au tri, une autre semaine dans les ateliers de création. Et ça leur permet un peu de s'essayer sur tous ces métiers et puis d'acquérir des compétences qui peuvent être transférées sur d'autres secteurs d'activité, puisque l'idée, ce n'est pas de les former à un métier dans la ressourcerie, mais bien d'apprendre des gestes qui pourraient être utilisés et des compétences qui pourraient être totalement transférées dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a également un atelier bois, où là, on travaille beaucoup la palette. Et on organise, alors on nous sollicite sur des prestations, où on fait des ateliers participatifs. Et on aime pouvoir associer à chaque fois qu'on le peut les habitants du quartier ou des quartiers, puisqu'on intervient dans différents quartiers, en tous les cas de pas faire sans eux. Et à chaque fois de réfléchir les projets avec eux et en les associant au maximum. Donc voilà, on fait beaucoup de chantiers participatifs et souvent autour de mobilier urbain en utilisant la palette qu'on récupère un petit peu partout. On a des partenariats avec des entreprises sur Gennevilliers qui sont ravies de nous donner leur palette puisque c'est des palettes qui sont destinées à la déchetterie. Et donc les entreprises payent des sous pour pouvoir faire que leur palette soit détruite. Et du coup, quand nous, on les récupère, c'est plutôt une bonne opération pour eux. Mais c'en est une aussi pour nous puisque ça nous permet d'avoir du gisement et donc de la matière première pour pouvoir réaliser les ateliers, les objets qu'on souhaite réaliser. Voilà, je ne sais pas que vous dire d'autre, si ce n'est qu'on est content d'être là ce soir avec vous, puisque c'est vrai que l'activité qu'on a au Lude est totalement transposable dans tout autre quartier. Et l'idée, ce serait que on puisse aussi associer le plus grand nombre de personnes dans notre démarche et puis repenser un peu ensemble nos gestes du quotidien, notre manière de consommer, puisque au-delà d'être une activité support d'insertion, c'est avant tout aussi une manière de consommer, de penser, de revoir un peu voilà, la société de demain et celle qu'on est en train de construire pour nos enfants et de la repenser ensemble. Voilà, c'est un petit peu... Donc, on intervient aussi dans les écoles. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation avec les enfants, puisque, bon, je pense que plus on les initie jeunes à ces questions-là et plus vite ils sont conscients et ont les bons gestes au quotidien. Mais c'est aussi par les parents que ça passe. Donc, on fait aussi des ateliers sur tout ce qui est entretien, enfin, produits d'entretien, produits ménagers, produits cosmétiques au naturel, comment on peut aussi se faire du bien, mais faire aussi du bien à son porte-monnaie, puisqu'on a aussi voilà, des personnes qui ont des petits revenus et qui participent à nos ateliers et sont contents d'y participer parce qu'au-delà du geste écolo, je dirais, c'est aussi pour eux la possibilité aussi de réduire les charges et donc de pouvoir se faire quelques économies sur tous ces produits qui coûtent parfois très cher pour des familles. Oui.
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Et des cosmétiques ou des produits ménagers, etc. S'il y a un accompagnement pour expliquer tout ce qu'on évite de saloperie dans les produits commerciaux.
Oui, alors...
Je suis régulièrement confronté par des gens qui veulent faire des actions sur les perturbateurs endocriniens, etc. Et je dis non, il faut le prendre à l'envers. Comment les éviter ? Ben, par exemple, en fabriquant ses propres produits. Donc il y a une dimension sanitaire qui n'est pas inintéressante. C'est ma
absolument
question.
Alors, c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément les choses de prime abord de cette manière-là, parce que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Et c'est vrai que la question économique vient en premier lieu, puisque souvent, c'est plutôt ça qui amène les gens à venir participer aux ateliers. Mais pour nous, c'est une manière de les appeler vers cette manière. Et ensuite, on aborde toutes ces questions-là et du coup, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans un second temps. Mais c'est pas la première chose qu'on met en avant. Alors certains peuvent être sensibles à ces questions-là, mais je dirais que voilà. On fait un point d'entrée plutôt économique, écologique aussi, et puis sanitaire dans un troisième temps au moment où l'atelier a lieu, où on échange avec eux et on essaie de leur faire prendre conscience qu'on évite aussi un certain nombre de maladies en utilisant des produits plutôt sains. Et puis ils repartent, ils sont plutôt... Il n'y a pas très longtemps, on a fait une opération en pied d'immeuble où on s'était installé et les gens passaient. Et c'est vrai que les hommes... Quand ils nous voyaient faire les ateliers, ils nous disaient « Ah ben, je vais aller chercher ma femme, ça va me coûter beaucoup moins cher que de faire faire les produits. » Donc déjà, je lui disais, enfin, on leur expliquait que ce n'était pas forcément à sa femme de faire le produit, d'accord, qu'il pouvait s'installer et qu'on pouvait le faire avec lui et que lui pourrait lui montrer comment faire. Voilà. Mais c'était assez drôle parce qu'on a eu plusieurs hommes qui se sont arrêtés comme ça en se disant bah, « Tiens, ça, c'est plutôt une histoire de bonne femme, hein, entre guillemets, si je voulais être un peu... » Et puis, petit à petit, bah, on discute avec eux et ils se prêtent au jeu, donc voilà.
Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'ai une question. Je voulais savoir les gens que vous accompagnez ou que vous faites des ateliers avec eux, est-ce qu'eux, en retour, vous apportent quelque chose en fait, au projet
oui,
de votre
alors,
association ?
Oui, alors, vous parlez des salariés ou vous parlez des personnes qui participent ?
Des personnes qui participent. Est-ce qu'ils ont des savoir-faire qui nourrissent en
alors,
retour
oui.
Au projet en fait.
Oui, alors, on a parfois des gens qui viennent et qui ont un savoir-faire et qui proposent d'être bénévoles dans notre association. Même quand on a tous un savoir-faire, on sait tous faire quelque chose. Et du coup, bah, des fois, il y en a qui se proposent juste pour trier les vêtements qu'on récupère, les mettre dans des cartons, trier ce qui est hiver, été. Enfin voilà, ils se proposent parfois de venir donner un peu de leur temps à l'association. Donc on a un certain nombre de bénévoles. Et puis après, il y a des gens qui savent faire des choses précises et du coup qui peut intéresser aussi la ressourcerie. Et du coup, on leur dit bah tiens, ça peut être intéressant. Est-ce que vous vous sentiriez de d'expliquer aux gens telle ou telle chose ? Alors après, on prépare avec eux les ateliers parce que savoir faire quelque chose, c'est bien. Animer un atelier, c'est encore autre chose. Donc du coup, il y a un encadrant, on les accompagne, on rédige une petite fiche avec eux, on essaie de formaliser un peu les choses. Mais du coup, oui, il y a certaines personnes qui viennent prendre des choses et puis c'est très bien comme ça. Mais il y en a d'autres qui viennent aussi donner et ça, c'est très bien aussi puisque c'est aussi ça l'intérêt.
Oui, bonjour. Je suis Thierry Moulin. Donc je représente ici l'association qui s'appelle Les Copeaux d'abord. Alors les Copeaux d'abord, c'est une association qui met au service de gens qui ont un projet de construction, Quand j'entends construction, ce n'est pas forcément dans le bâtiment, mais c'est surtout dans réalisation d'une bibliothèque, transformation d'un meuble, beaucoup de travail du bois et du métal, puisque nous avons aussi un atelier de... Et donc on met à disposition de ces gens-là des compétences avec des professionnels qui les aident dans la conception de leur projet et dans la réalisation de leur projet. On met à disposition un atelier équipé avec des machines qu'on espère le plus performantes possible. Et on met à disposition aussi un lieu où on va pouvoir échanger. Parce que les gens, des fois, ont des idées, ont envie de les réaliser, mais n'ont peut-être pas la bonne méthode, la plus, on va dire, pratique, économique, et surtout d'avoir un produit qui soit un produit fait par soi-même. Et donc, c'est autre chose que de se monter une bibliothèque IKEA. Ou... Voilà. Donc, ce qui est important quand même, c'est que... pour réaliser des travaux qui sont quand même relativement importants dans le domaine de la menuiserie ou de l'ébénisterie, ou voire même il y a des gens qui fabriquent des lampes avec travailler le verre et tout ça, il faut un lieu et l'utilisation d'outils qui sont quand même des outils relativement dangereux et qu'on manipule pas facilement. Quoi. Donc c'est pour ça que nous, on privilégie beaucoup le travail avec des gens qui savent. Il ne suffit pas de faire à la place des gens, mais il faut leur montrer comment faire, comment travailler en toute sécurité pour soi-même et pour les autres, et comment faire en sorte que ça soit bien pour que le projet final soit une réussite. Quoi. Donc voilà, et ça nécessite d'abord un lieu qui soit équipé. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'intervenir en bas d'un immeuble comme vous le faites ou dans un autre lieu parce que une machine, une scie, une toupie, tout ça, c'est un instrument qui est fixe, qui est en place et qu'on peut difficilement transporter. Quoi. Enfin, une deuxième facette de l'association, c'est aussi de travailler en partenariat avec d'autres associations ou des collectivités locales ou des comités de quartier ou des foyers de travailleurs, par exemple, qui ont un projet. Par exemple, on a aidé à faire des cibles pour les archers. On a aidé à faire des jardinières pour des jardins partagés. On a aidé... quand je dis on a aidé, c'est peut-être qu'on n'a pas fait à la place. On a aidé parce que les gens sont venus et on s'y est tous mis. On leur a montré comment faire. Ils ont chacun... pris leur part de travail. On a fait comme ça des choses pour, on va dire, pour la ville, pour le collectif en général. Quoi. Voilà, ça, c'est les deux facettes de l'association. On aide des gens qui ont un projet, qui viennent nous voir pour réaliser leur projet. Et puis, on aide aussi d'autres associations à faire, à concrétiser la réalisation de choses dont ils ont besoin pour développer leurs propres activités. Alors, l'atelier du carnaval, c'est... ça me permet de rebondir sur une chose quand même. Ce qui est intéressant dans ce genre d'association, c'est le côté convivial. Parce que ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de faire que des gens se rencontrent alors que, a priori, ils ne seraient peut-être jamais parlé. Quoi. Donc de travailler ensemble, c'est déjà enrichissant. Mais de vivre ensemble, c'est aussi enrichissant parce qu'on apprend à se connaître, on a des approches différentes, on a des façons de travailler différentes, et ça permet une confrontation qui est, à mon avis, toujours enrichissante. Et l'atelier du carnaval est un exemple très significatif, parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ont envie, et voilà, tout cela, à un moment donné, ça se met ensemble pour réaliser un projet collectif commun. Et ça, c'est... c'est intéressant.
Moi, j'avais une question. Oui, par rapport à la question de la sécurité, du coup, les personnes qui viennent au Copa d'abord, ils ont quelques heures de formation. Enfin, voilà, soit ils savent faire et du coup, comme vous disiez, vous préférez travailler avec les gens qui savent faire parce que c'est vrai qu'il y a quand même une manipulation de machines qui peut être dangereuse. Alors, est-ce que du coup, en amont, on les forme ou il y a une, est-ce que c'est conditionné? Comment ça se passe?
Déjà, les gens viennent, Je veux faire une bibliothèque sur tout un pan de mur. Voilà, je veux un truc. Voilà, bon, ok. Donc, on travaille d'abord sur la conception avec eux. C'est-à-dire que on met en place. On fait des plans. Parce que quand on se lance dans un projet comme ça, on n'y va pas à l'arrache en disant. Voilà. On fait des plans. On travaille beaucoup sur la modélisation 3D avec eux en les apprenant à se servir des logiciels de numérisation 3D. C'est intéressant parce que ça permet d'abord d'avoir une image de son projet quand il sera terminé, une image. Ça permet de savoir comment on va procéder, quel type de fabrication on va. Ça permet de savoir quel type de matériaux il nous faut, combien il nous en faut, de préparer les débits, etc., etc. Et puis après, on travaille avec des professionnels. Quand on utilise une scie circulaire, c'est un engin qui est énorme, ça peut rebuter des gens. Donc, on va leur montrer, on va faire avec eux, on va leur montrer comment ça fonctionne, on va les aider, et puis les gens, très vite, bah, ils vont savoir faire au bout d'un moment. Sauf qu'il y a toujours quand même, il y a toujours quelqu'un qui est présent. On ne peut pas laisser. D'abord, on interdit à ce que des gens viennent travailler tout seuls à l'atelier quand il n'y a pas quelqu'un, quand il n'y a pas un encadrant. Parce que déjà, de travailler tout seul, quand on se coupe un doigt, c'est embêtant parce qu'il n'y a personne pour vous porter secours. Et puis, deuxièmement, c'est trop dangereux pour soi, pour le matériel et pour les autres. Quoi. Donc, il y a toujours un encadrant qui est sur place, qui peut aider. Il y a deux, trois personnes qui sont présentes en même temps. Mais il y a toujours un encadrant. On ne laisse pas les gens se débrouiller de seuls. Ça nous a permis de rencontrer des gens. Nous, il y a un gars qui est venu un jour comme ça. Ben, moi, ça m'intéresse, j'ai vu tout. Et puis, en fin de compte, en discutant avec lui, on s'est aperçu que ça faisait 35 ans qu'il travaillait dans la menuiserie. Quoi, je veux dire. Et qu'il nous en a appris plus que nous, on pouvait lui en apprendre. Quoi, je veux dire, parce qu'il savait faire, il avait toujours travaillé sur ces machines-là. Et ben, en fin de compte, il a mis ses compétences au service de tout le monde. Alors il vient, il réalise des choses pour lui, et puis il aide les autres à réaliser des choses pour eux. Pardon ?
Comment les gens savent, vous pouvez, je veux dire, quelle communication, quelle couverture ?
On a eu, quand on a ouvert les ateliers, on a eu une couverture médiatique un peu. Après, on participe, comme toute association genevilloise, au forum des associations au début d'année. Et puis ça fonctionne aussi comme beaucoup sur le bouche à oreille, quoi. Je veux dire, ah ben moi j'ai ça à faire. Ah ben pourquoi tu ne demandes pas aux copos? Parce qu'ils vont t'aider, parce que. Y compris, ça nous arrive de. On travaille avec des collèges, par exemple, parce qu'ils ont mis en place un dispositif qui permet aux élèves exclus de se. Quand ils sont exclus une semaine, plutôt que de les laisser chez eux sur leur tablette ou éventuellement ailleurs à faire. Nous, on les prend en charge et puis ils viennent réaliser. Des perchoirs à oiseaux pour mettre dans la cour du collège ou des voilà, et donc on les aide à la fois à concevoir le projet, à savoir comment on va le faire et à le réaliser eux-mêmes. Ce qu'on appelait dans notre temps l'atelier, il y avait dans les collèges. Maintenant, il n'y a plus ça. Je veux dire, il n'y a plus de
cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Bonjour, je m'appelle Kamel Sehil, je suis ici pour présenter Réciprocité. Alors, Réciprocité a été démarrée par le Secours catholique, a commencé par faire un atelier d'échange de savoir. Ensuite, il y a eu la rencontre inattendue, parce que des gens sont partis du principe que il y a beaucoup de gens qui ignoraient ce que la religion de l'autre était. Donc, ce sont des ateliers de discussion interreligion. Après, on a créé un Repair Café. C'est là où moi je suis le plus actif. Donc c'est le Repair Café, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de lutter contre l'obsolescence programmée. Donc les gens ramènent des objets à réparer. Il y a aussi un atelier couture où on leur répare, on leur explique comment réparer ou pourquoi on ne peut pas réparer. Donc ça, c'était vraiment. Sont les ateliers qui sont toujours. Fait par le collectif. Et ensuite, on est parti d'un constat qu'en fait, il y avait quelque chose qui manquait assez en France, enfin qui avait disparu, c'était le bistrot. Bistrot de quartier où les gens se rencontraient, où on discutait. Donc on a eu un projet de créer un café associatif. On a été appuyé par le Secours catholique, on avait les financements. Pour des raisons que je vais oublier, que je ne vais pas vous faire raconter pour faire un petit peu court, le projet ne s'est pas fait. On a perdu beaucoup de bénévoles en cours de route. Et puis, en croisant... c'est quoi ton prénom ? Cécile. En croisant Cécile, qui m'a parlé du projet ici, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter de relancer le projet ici. Il y a l'endroit, il y a le lieu, donc ça serait un endroit idéal pour recréer ce café associatif.
J'en profite, c'est un peu l'objet un peu du débat ce soir, c'est que justement, c'est des initiatives associatives un peu similaires dans l'intention qui sont présentes pour nous présenter leur projet. Et du coup, cette idée, par exemple, de café associatif, ça a été finalement un problème de local, d'accessibilité à un lieu pour le faire. Et en fait, est-ce que l'idée de réfléchir sur la Halle des Grisons, c'est est-ce que ça pourrait pas être une sorte d'espace qui serait partagé par soit des habitants qui ont des projets, des initiatives locales ou des associations ou des collectifs qui se partageraient un espace? Est-ce que ça serait possible d'imaginer ça? Et si vous avez... pardon, pour le bruit, c'est pas idéal. Si vous avez des idées à donner là-dessus, sur comment est-ce que ça pourrait se créer une sorte de... Est-ce que ça existe? Est-ce que vous en avez déjà vu? Et est-ce qu'on pourrait créer une sorte de synergie commune dans cette halle voilà.
Tout à fait. Une des problématiques, il y a beaucoup d'associations à Gennevilliers. C'est une ville vraiment dynamique. Et beaucoup d'associations ont du mal à trouver des endroits d'hébergement. Donc je pense qu'une des idées, ça serait peut-être d'avoir un lieu partagé pour les associations, ne serait-ce que pour les réunions.
Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'au-delà de la partie logistique, je dirais, de pouvoir trouver un lieu, c'est vrai que c'est une problématique que rencontrent beaucoup d'associations. Je trouve que l'intérêt de pouvoir aussi réunir dans un seul et même lieu différentes associations avec des thématiques différentes, mais qui graviteraient autour d'une économie sociale et solidaire. Je trouve que ce serait intéressant parce qu'on a tous le nez dans le guidon, on se croise à des manifestations, à des forums, et on se dit, tiens, on pourrait faire des choses ensemble, ce serait bien, il faudrait qu'on se rappelle, etc. Puis après, on repart dans nos activités. Et à nouveau, on a le nez dans le guidon et on déplore de ne pas pouvoir trouver plus de synergie alors qu'il y en aurait qui se ferait assez naturellement. Mais faute de temps, faute de proximité, ça ne se concrétise pas. De pouvoir se retrouver dans un seul et même lieu où on serait quasiment voisins les uns les autres, où on aurait des espaces partagés, bien je pense que ça favoriserait des projets qui pourraient naître de rencontres autour d'un café, parce que c'est souvent comme ça que ça démarre, et de se dire, tiens, on pourrait concrétiser ça, on prend une feuille, on commence à l'écrire, et puis après, ça finit par un carnaval magnifique comme celui-ci. Je suis sûre que c'est comme ça que ça naît, ce genre de projet. Voilà. Je pense qu'au-delà de la partie logistique, je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir un espace, un vrai pôle d'économie sociale et solidaire qui serait investi complètement par les habitants, où chacun pourrait trouver sa place en tant que bénévole, qui pourrait donner un peu de temps ou venir participer à des ateliers ou venir se poser dans le café associatif. Enfin voilà, je trouve que c'est autour en plus d'un théâtre. Enfin, je trouve que ce serait une super... Enfin, j'en connais pas d'autres. Hein. J'ai pas vu des pôles d'économie, des espaces collaboratifs. Il y a de plus en plus de tiers-lieux. C'est un peu très à la mode en ce moment, les tiers-lieux, avec la région Île-de-France qui a lancé un vaste programme de financement de ces espaces collaboratifs. C'est aussi intéressant parce que je pense que ça nous amène à repenser la relation au travail, la relation, enfin ces espaces collaboratifs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de télétravail, des gens qui travaillent chez eux, mais qui aiment se retrouver dans un espace où il y aurait des auto-entrepreneurs, des retraités, des étudiants, des salariés qui sont en télétravail. Enfin, voilà, c'est aussi ça, et ça préfigure, je crois, de relations différentes qui sont en train de se construire. Je pense que le numérique y est pour beaucoup. Y est pour beaucoup à deux titres, parce que d'une part, je trouve que ça nous a rapprochés, mais ça nous a beaucoup éloignés. C'est-à-dire qu'on est aussi beaucoup dans du virtuel, et qu'aujourd'hui, ces espaces où on se rencontre physiquement, où on se parle pour de vrai, on est tous un peu en quête de ça aussi, quoi.
Voilà, je ne sais pas si... Ah, ça...
Oui, non, mais je crois quand même beaucoup à la notion du projet collectif, de l'initiative collective. Je ne sais pas si de mettre un lieu à disposition, c'est si simple, quoi. Je crois qu'il faut travailler autour de l'idée de mettre des gens ensemble autour d'un projet. Après, le lieu, les moyens, les compétences, c'est dans un deuxième temps. Mais avant, le carnaval est un exemple type pour ça. Les gens ne viennent pas là pour apprendre à maroufler ou à coller des plumes sur un chapeau. Non, ils viennent là pour fabriquer un objet qui, à un moment donné, va participer à une parade qui sera collective, quoi. Et donc, c'est, je crois que le projet est, à mon avis, plus porteur que le lieu. Parce que, en plus, c'est un lieu qui est gigantesque. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, ça va pas être simple à investir. Et si on part dans l'idée qu'il faut investir ce lieu, ça risque d'être un peu plus compliqué. Par contre, je crois qu'un lieu où on va pouvoir se faire rencontrer des gens sur un projet collectif, c'est peut-être plus pertinent, je pense.
Je ne veux pas faire Franck Lepage, parce que dès qu'on me parle projet, maintenant je pense au sketch de Franck Lepage. Je vous laisse le trouver sur YouTube. Je dis, c'est devenu un mot valise. Un projet a un début et une fin. Le lieu n'a pas de début et de fin. Et le lieu sont des projections de symboles. Quand les gens se l'approprient, c'est quelque chose, c'est une étape fondamentale qui fait qu'ils se sentent concernés. Donc le lieu est important, mais le lieu a une destination, un horizon. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne cherche pas à faire collectif pour faire simplement collectif. On fait collectif parce qu'on partage des valeurs, on veut donner une autre trajectoire à l'humanité, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le lieu est fédérateur. Et comment, justement, on le constitue en lieu fédérateur, c'est toute la question qui nous a amenés ici ce soir. Et ce qui n'est pas simple, hein. Je ne suis pas un praticien de terrain, mais je suis toujours émerveillé par la capacité, encore une fois, à créer du mouvement et à transmettre... Je dirais d'autres choses que simplement des pubs pour les produits déconsommables à la télé. Et donc, je pense que le lieu a une vocation à être détourné en autre chose, en quelque chose qui n'est plus une halle comme c'était avant, mais qui reste aussi avec une projection, un avenir, mais un horizon. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle vie on veut dans 10, dans 20, dans 30 ans ? Mais c'est pas le projet, il va durer 6 mois, il va durer 1 an. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en cela que le terme projet me gêne parfois. On a des gens qui veulent atteindre des objectifs, et puis on se dit chacun a des objectifs dans sa vie, mais la vie continue. Et on va où exactement ? On va dans quel monde on veut créer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important. Oui, c'est important à partager. Chacun arrive dans le sujet peut-être, parce qu'il a quelque chose à réparer ou qu'il a quelque chose qu'il voudrait fabriquer et qu'il ne peut pas. Mais en même temps, ça lui donne une autre vision de lui-même. Ce n'est pas juste de l'utilitaire, c'est ça que je veux dire. Si on était simplement dans le service rendu, je serais insatisfait.
Oui, mais tous les projets d'appropriation d'un lieu qui se sont faits jusqu'ici, ils se sont faits... Autour du lieu, c'est vrai, mais généralement, c'était par exemple de recycler des friches industrielles, des choses comme ça. Mais c'était toujours greffé à un projet artistique. On a créé des maisons de collectifs d'artistes, on a créé des... Voilà. Donc, est-ce que c'est l'économie solidaire qui va être le fédérateur de... porteur de ce lieu, peut-être ?
C'est ce que j'allais dire.
C'est une piste, oui.
Oui, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire que le projet en lui-même, c'est comment... Est-ce qu'il pourrait fédérer toutes ces structures qui pourraient se retrouver dans ce lieu ? C'est peut-être remettre l'homme au cœur de nos préoccupations et de nos... Voilà. Et puis alors, ça peut se traduire par le recyclage, ça peut se traduire par des espaces de convivialité, ça peut... Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est un tiers-lieu. J'aime bien l'idée du tiers-lieu parce que c'est de se dire... Voilà, c'est ça. C'est de se dire qu'on a un lieu où on imagine un avenir meilleur, un autre. Enfin voilà, et je trouve que ça, c'est un projet en lui-même.
Où on
enfin,
imagine
je veux
dire, d'être ensemble.
Ensemble, mais ensemble autour de valeurs qu'on partage. Parce que du coup, c'est ça aussi qui va faire qu'on va aller tous dans le même sens. Et en ça, c'est un vaste projet, mais c'est un beau projet qui, pour le coup, n'a pas de début, et n'a pas, enfin, un début, mais n'a pas de fin, en tous les cas. Voilà.
C'est pas
pas, peut-être que les gens ont envie de parler, parce qu'on parle beaucoup, nous, les intervenants, mais...
Non, mais je ne vais pas particulièrement modérer le débat. C'est intéressant ce qui vient de s'être dit, mais en tout cas, si vous êtes là et si vous avez d'autres idées, d'autres choses, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Voilà.
Je vous remercie. Je voulais juste poser une question qui est assez récurrente dans toutes les grandes villes et en particulier dans les banlieues, où la question de la jeunesse, je ne vais pas faire des stigmatisations ni d'injonctions, mais on constate quand même que dans les villes, dans les quartiers, entre guillemets, il y a pas mal de jeunes qui peuvent potentiellement être porteurs de projets, mais qui auraient besoin peut-être d'espace ou voilà, pour réaliser leur savoir-faire. Est-ce que vous avez pensé aussi à informer ces jeunes au cas où ils seraient pas informés, les associer un peu à ces jardiniers pour qu'ils puissent savoir qu'effectivement dans la ville où je vis, dans les quartiers où je vis, il y a quand même un espace où je pourrais potentiellement exprimer mon savoir-faire qui peut voilà, me permettre de réaliser quelque chose d'autre que de faire des choses dont on connaît tous.
Alors, justement, une des problématiques de Gennevilliers, c'est que les jeunes, on a beaucoup de mal à les sortir de leur quartier. Ça, c'est vraiment inhérent à Gennevilliers, c'est-à-dire que, voilà, moi, je fais du bénévolat au Lutte, et les gens du Lutte ont beaucoup de mal. Alors, il y a juste le quartier un petit peu du village qui est fédérateur, on va dire, qui est plutôt neutre. Mais sinon, les gens des Agnettes ne vont pas aux luttes, les gens du Lutte ne vont pas aux Agnettes. Alors ça, c'est une des problématiques des jeunes à Gennevilliers. Donc ça, c'est quelque chose qui va certainement falloir travailler si jamais l'AAL devient un pôle important. Faudra essayer de les ramener ici. C'est un travail à faire, effectivement.
Je voudrais juste compléter, c'est absolument vrai. C'est vrai que tout à l'heure, je disais, on n'est pas la ressourcerie du Lutte, mais bien celle de Gennevilliers. C'est pas par hasard que je disais ça. C'est vraiment, ça fait complètement écho à ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est vraiment prégnant sur Gennevilliers. On n'habite pas Gennevilliers, on habite le Lutte, on habite les Grésillons, on habite le village. Enfin, mais c'est vrai que les jeunes surtout ne disent pas j'habite Gennevilliers. Ils habitent leur quartier. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tous les cas, on essaye le plus possible de sortir du quartier et de faire des activités hors les murs, parce qu'on sait très bien que les gens qui n'habitent pas le Lutte, enfin en tous les cas les jeunes, on n'arrivera pas à les toucher si on ne va pas nous à leur rencontre, parce qu'eux ne viendront pas à nous. Et ça, c'est une vraie problématique sur Gennevilliers. Donc je pense qu'il faudra, même si physiquement voilà, ce lieu devait exister, il faudra qu'à un moment donné, on aille aussi chercher les gens. Alors je pense qu'il y aura une forte communication, etc. Il y a ceux pour qui c'est très accessible, et puis il y a ce qu'on appelle un peu les invisibles. J'aime pas trop le terme qu'utilise on les appelle les invisibles, mais voilà, c'est parce qu'on les voit pas, on n'arrive pas à les toucher, ils passent pas par les institutions, mais ils existent, et c'est peut-être à nous de faire l'effort d'aller à leur rencontre et d'aller les chercher. Et les jeunes, beaucoup de jeunes en font partie.
D'autres personnes voudraient intervenir, parce que pas d'obligation, mais c'est le moment, quoi.
Sur la question de la jeunesse, sur un travail que j'ai eu à faire sur Villiers-le-Bel, une des questions, c'était la banque de stage. Comment faire pour avoir une banque de ressources pour des stages qu'on demande soit en troisième, les cours stages de troisième, etc. Donc il y a des services normalement qui sont existants dans les collèges, dans les lycées, au niveau de l'orientation. Mais en fait, quand il n'y a pas un endroit fiable, un endroit où on peut venir sans être noté, jugé, ou dans tel horaire, mais qu'on peut trouver une banque de stages, j'ai remarqué que c'était une grosse demande sur cet endroit-là. Et comme je suis Gennevillois, je me suis dit, ça peut arriver aussi à des jeunes Gennevillois. Et la deuxième chose que j'ai rencontrée, c'est une plateforme qui permette à des ressortissants qui ont encore de la famille au pays, depuis qu'ils sont venus s'installer en France, et qui ont encore de la famille au pays et qui cherchent un moyen de mutualiser des moyens d'appuyer la famille au pays. Et pas seulement la famille, des fois des associations, d'association à association, et donc qui cherchent des espaces pour créer une plateforme d'économie solidaire avec les cousins ou les neveux ou des petits-neveux qui sont en train de monter leur petite affaire au pays et trouver un espace stable et d'appui et de conseil. Voilà. Et donc, comme je l'avais vu ailleurs, je m'étais dit, ben, si ça peut contribuer à l'éventail des propositions ici, ben, voilà. Ça vient de Villiers-le-Bel, où j'ai eu à travailler récemment.
C'était sous forme de tontine ?
Alors, il y avait sous forme de tontine, ou les AVEC, les associations vicinales d'économie, d'épargne et de crédit, ou les associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC. Mais c'était surtout entre ici, des ressortissants qui vivent ici, qui travaillent ici, qui resteront ici, qui repartiront plus au pays, ou parce qu'ils sont à la deuxième ou troisième génération, mais qui a toujours de la parenté et qui crée un lien.
Si j'ai bien compris, en fait, vous souhaiteriez venir ici, non, la ressourcerie, vous souhaiteriez venir vous installer sous la halle.
Nous, on
enfin,
ira...
C'est un projet.
Ah, non, pour le moment, on a pas du tout...
Non, mais c'est...
Mais si demain, la population nous disait, ben, nous, on aimerait okay. bien et on a besoin, on viendra là où on
D'accord.
nous attend. On viendra pas... voilà, enfin, à chaque fois qu'on s'est installé, enfin, là, par exemple, au Lutte, on s'est assuré d'abord... déjà de ne pas faire ce que faisaient les voisins, qu'il y avait une cohérence et une complémentarité avec Bicyclette, avec la régie de quartier, avec le centre social, enfin voilà, que du coup ça pouvait faire une. Voilà, que ça pouvait prendre. Aujourd'hui, nous, on n'a pas du tout. Voilà, enfin, on n'a pas écrit, mais on est là aujourd'hui avec vous parce que si demain c'est ce qu'aimerait la population et les habitants des Grésillons. Eh bien, on l'étudiera attentivement et avec beaucoup d'intérêt de voir dans quelle mesure on pourrait se rapprocher et répondre aux attentes des gens qui habitent les Grésillons. Voilà. Mais sinon, on continuera à venir ponctuellement comme on le fait, soit au centre social pour aller à la rencontre des gens, soit en extérieur quand il y a des manifestations, des forums, la semaine du développement durable où là on fait un parcours où on vient à la rencontre des gens. Ça pourra rester sous cette forme-là si ça suffit. Mais si aujourd'hui sur la halle ou au niveau des habitants des Grésillons, on nous dit bah tiens, nous on aimerait bien parce qu'on on aimerait faire des ateliers parce qu'on ne veut plus jeter, on veut consommer, qu'il y a une attente, que ce soit des associations, que ce soit des habitants, on l'étudiera sérieusement. Voilà.
D'accord. Et toi Thierry, c'est aussi le vœu peut-être, c'est juste que j'essaye de bien carrer dans ma tête. Tu souhaiterais que les copeaux viennent ici par exemple ?
S'il y a une demande, oui, voilà. Bien sûr, oui. C'est pas nous qui allons proposer de faire des ateliers au Grésillon. Parce que nous, on a déjà un local qu'on a eu du mal à aménager, etc. etc. Voilà.
C'est ça.
Et qui est, voilà. Par contre, je reprends l'exemple, les jardinières qu'on avait réalisées pour le quartier des Grésillons, si c'était à faire ici, bien sûr, on serait venu, on aurait mis les moyens pour venir les faire ici.
Ouais, ça veut dire que tu aurais déplacé tout le matos ici.
On aurait déplacé ce qu'il faut pour...
D'accord.
À partir du moment où c'est une demande.
Ouais, c'est ça. Ça a du sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se... Voilà.
C'est pas nous qui allons proposer d'ouvrir ici les ateliers.
D'accord. Okay.
Par contre, s'il y a une demande pour réaliser un projet d'aménagement sur le quartier, on est tout
parce
à fait
partant. Parce que alors, Cécile me l'a juste fait remarquer. Ils sont pas là ce soir, d'ailleurs, c'est dommage, mais la MAP avait aussi... émis un souhait de venir sous la halle, par exemple, ce qui est beaucoup plus pratique que de venir à l'espace. Après, moi, je pense qu'on peut faire de ce lieu un lieu de culture aussi.
Oui,
par exemple,
fait.
Y faire des... Alors, pas des concerts comme au Tamanoir, mais juste
pour... Pas concurrence avec nous.
Non, pardon. Mais tu vois, pour rejoindre ce que disait... excuse-moi. Je vais pas retenir ton prénom. Je suis un petit peu... Et pourquoi pas organiser des petites soirées plus intimistes avec les jeunes, des concerts, etc. etc. Après, on ne fera pas concurrence au Tamanoir. Enfin, ils ne feront pas concurrence au Tamanoir, mais ça peut se faire sur le quartier aussi. Enfin, il y a des idées, il y en a, mais c'est vrai que les jeunes, il faut aller les chercher.
Oui, c'est ça.
Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Cette halle, il faut qu'elle... De toute façon, il faut... Elle est trop belle, on ne peut pas la laisser comme ça, c'est sûr.
Pour le café associatif, non seulement
ça,
il faudrait...
Ça, je suis 10 000% pour.
Alors, non seulement il faudrait qu'il y ait une demande, mais il faudrait aussi qu'il y ait des volontaires pour le faire tourner, voilà. Parce que nous, on veut bien fournir le cadre associatif.
C'est le problème,
enfin voilà, après, c'est, il faut de l'énergie pour le faire tourner, ouais. c'est un gros travail. Et c'est pour ça qu'on a mis le projet de côté, c'est parce qu'au bout d'un moment, on s'est aperçu que les gens s'essoufflaient un petit peu, comme le local n'arrivait pas. Donc il faut non seulement qu'il y ait une demande, mais il faut aussi que des gens nous rejoignent dans le projet.
Ça, c'est compliqué. Le bénévolat, ça devient rare. Ouais.
Pas si rare que ça. Enfin, nous, en tous les cas, on. Alors, je ne sais pas si c'est lié au quartier, que maintenant les gens nous ont identifiés, etc. Et que voilà. Mais on a quand même des demandes assez assez régulières et spontanées de gens qui s'ennuient, qui nous disent bah ouais, moi j'aimerais bien donner un peu du temps. Enfin, et on sent que, enfin, il y a des mamans qui parfois sont à la maison, attendent l'heure de la sortie scolaire, des heures à 4h30 pour aller chercher les enfants. Qui me dit bah moi je voudrais bien une heure ou deux je peux et puis faire de la couture ça fait le enfin moi ça me plairait bien faire de la récup avec du jean des choses comme ça voilà donc je pense que dès lors où ça peut-être ça s'inscrit dans leur quartier de proximité qui sont en confiance les gens voilà y a, par exemple la boutique solidaire on a nos habitués qui viennent quasiment à la même heure et on sait que c'est leur sortie de la journée. Et ils vont nous demander quelles sont les nouveautés aujourd'hui. Puis ils vont venir avec leur chien et puis ça va être le moment de la discussion. D'ailleurs, on se posait même la question, derrière, on a un petit jardin. On se dit, mais ça vaudrait le coup peut-être d'ouvrir et puis de mettre un café, de faire en palette un espace où ils pourraient boire le café. Parce qu'on sent que, voilà, c'est... Alors, ils vont acheter 2-3 bricoles, ça va être le prétexte. Mais en réalité, la vraie demande, c'est de pouvoir échanger, discuter et rompre l'isolement dans lequel les gens sont. Donc je pense que ce lieu pourrait aussi permettre aux gens de s'ouvrir aux autres. Quoi. Mais il y a besoin d'un cadre rassurant pour ça.
Je voudrais juste apporter deux réflexions différentes. Je commencerai par la première. Je suis un obsédé des synergies. Et les synergies se créent spontanément. Il y a sur le toit du théâtre des jardins, une production de légumes et de salades, etc. Essayer de diffuser l'approche de la permaculture sur les balcons, c'est pas quelque chose de totalement absurde, et je crois que ça peut générer, encore une fois, des vocations. Toute cette activité nécessite un certain nombre de matériaux, et je me souviens à New York, il y a dans un endroit, sous Park Avenue, sous les lignes de voie ferrée, la ville qui a mis un espace, et il existe une jardinerie communautaire qui propose des matériaux, qui propose des jardinières, qui sont fabriquées par des matériaux de récupération, et ainsi de suite. Donc, vous voyez comment on finit par contribuer à un projet collectif. Et des produits peuvent être consommés au café, enfin, je délire là, mais c'est comment avoir... comment donner le sentiment qu'on va dans la même direction, et donc comment ces projets se renforcent par, justement, le partage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne réfléchit pas assez innovation sociale. C'est-à-dire que moi, qui ai travaillé dans des quartiers prioritaires, je me suis rendu compte que ça grouille d'initiatives et d'idées. Et que parfois, il y a un petit effort organisationnel, un petit conseil juridique, un petit accès au microcrédit qui permet de débloquer les situations. Donc, je verrai aussi un espace dédié au soutien à l'innovation sociale. Parce que les gens connaissent bien mieux leurs besoins que nous. Ils les vivent au quotidien. Et donc, de leur dire, moi, j'ai une idée, si on faisait ça, mais ce n'est pas exactement ce qu'eux ont identifié comme étant un besoin. Donc, et les aider à organiser la façon de couvrir ce besoin par eux-mêmes, donc des initiatives qui diffusent et qui ne sont pas juste associées à un lieu. C'est un lieu de diffusion, encore une fois, des savoirs, des initiatives ou de promotion de l'innovation sociale. Donc, il y a plein d'espaces à investir. Et je pense que, justement, le mode de financement des associations est quelque chose qui crée de l'isolement parce que chacun rentre en compétition pour des ressources très limitées. Et donc, ce n'est pas incitatif à ces ouvertures, à ces projets collectifs. Donc voilà, c'est juste des idées, encore une fois, qui s'accorderaient à n'importe quel lieu, mais pourquoi pas celui-là pour donner, encore une fois, une force, une puissance aux initiatives citoyennes.
Alors moi, je vais répondre un petit peu à votre question et un petit peu à la vôtre. Alors pour les bénévoles, nous, pour à l'initiation du café associatif, on avait pris l'initiative de faire ce qu'on appelle des cafés éphémères. C'est-à-dire de prendre des thermos de café, d'aller offrir le café aux gens et justement de leur demander ce qu'ils voulaient de leur café associatif pour répondre à leurs besoins. Donc on est tout à fait prêt à relancer cette initiative pour aller, et les gens étaient très enthousiastes à l'idée du café, puis on voulait qu'ils se l'approprient. Ce n'était pas le but de faire de l'entre-soi, il fallait aussi que ça devienne le café des utilisateurs, et c'est pour ça. Et donc on est tout à fait prêt à relancer l'initiative ici au Grésillon, afin que, et ça, on pourrait aussi parler de la Halle aussi, on pourrait faire ça en collaboration avec la Preuve par 7.
Quand même, je ne voudrais pas être... Mais j'ai l'impression qu'on est sur une autre planète quand même, parce que on a la chance à Gennevilliers d'avoir une vie associative riche, avec de nombreuses initiatives. Et puisqu'on parle du quartier, on a mis en place des jardins partagés, et on a quand même aussi énormément de difficultés à les faire fonctionner. C'est aussi une réalité. Donc je ne sais pas si d'offrir un lieu en plus, on parlait des gens qui avaient du mal à se mélanger d'un quartier à l'autre. On a un peu cette mentalité de quartier républicain indépendant ici, quoi. Je veux dire, c'est avec chaque quartier a sa maison de quartier, chaque quartier a son conseil de quartier, chaque quartier a son espace. Dans le domaine de la culture, on a le conservatoire, on a les ateliers d'artistes à deux rues d'ici, on a l'espace socio-éducatif à trois rues d'ici. Je sais pas le terme exact. Enfin, voilà, il y a quand même plein de choses qui se font. Et y compris plein de choses qui ont des difficultés à pérenniser dans le temps parce que, justement, les associations ou les gens qui sont à l'initiative de ça s'essoufflent un peu parce que ça manque un peu de participation, quoi. Je veux dire, au début, on lance des projets, il y a des gens qui... Et puis, c'est quand même compliqué. Ceci étant dit, les gens se rencontrent quand même. Il y a des... rencontre sur la parentalité à l'espace éducatif. Il y a des gens qui, tous les matins, vont prendre le café ensemble après avoir emmené leur môme à l'école. Il y a quand même des choses qui se font. Vous voyez ? Et on n'est pas en attente d'un lieu supplémentaire pour mettre en place ça, quoi.
Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
Ça, c'est exactement la réflexion. La réflexion du politique qui dit « Je vais faire des pistes cyclables et il y aura des cyclistes ». Non, ça ne marche pas comme ça. On ne génère pas des vocations parce qu'on a mis des pistes cyclables. Être cycliste, c'est une culture. Et donc, comment on change cette culture en une culture de partage collective ? Eh bien, c'est en rapprochant les gens. Et donc, mais je dis encore une fois, vous pouvez me traiter d'idéaliste, etc. Moi, je m'inspire de la manière de laquelle fonctionnent les Québécois. Et toutes les initiatives commencent par la mobilisation dans la rue. Et il y a des étudiants en Master 2 qui sont des agents de mob, comme ils appellent à Montréal, et qui font ça, qui vont parler avec les gens, les informer, parfois utilisent les méthodes de l'éducation populaire, hein, qui font des événements de rue pour justement créer cette attirance. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver en France, alors que tous les éléments sont réunis, les compétences, les envies, les bénévoles, les besoins, tout est réuni. Et pourquoi ? Ben c'est juste une question de changement de logiciel.
Je partage votre point de vue là-dessus, sur la question de la sensibilisation et d'aller à les agents de mob. C'est assez drôle comme mot. Je vais vous donner l'exemple d'un dispositif. Alors ce soir, je suis avec ma casquette, la Fabrica, j'en suis présidente. Et par ailleurs, j'ai un autre métier où je suis directrice d'une structure, Ensemble pour l'emploi, qui porte un dispositif d'insertion par la création d'activités. Et ce dispositif, il va à la rencontre des gens. Il y a toute une phase de sensibilisation où on va dans les quartiers avec deux animateurs qui vont sensibiliser beaucoup les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création d'activités. Alors ça va être pas forcément la création, ça, à l'initiative. Ça peut être créer son association, ça peut être créer son propre emploi, ça peut être créer son entreprise. Mais c'est comment on arrive à mettre en mouvement les jeunes autour de quelque chose qui les fait rêver. Alors, en définitive, peut-être que ça ne se réalisera jamais. Mais c'est un moyen pour pouvoir commencer à tirer et à les mettre en mouvement et puis peut-être leur dire que c'est peut-être possible. Là où beaucoup de jeunes ne s'autorisent même pas à cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on ne s'autorise plus à se dire « je vais réaliser mon rêve ». Ce n'est pas possible, d'une part, parce que les professionnels qu'on peut rencontrer aussi Dire bah non, tu es déjà au RSA, tu vas quand même pas en plus te lancer dans une création d'activité. Enfin, voilà. Voilà, oui, il aurait pu traverser la rue, c'est vrai. donc voilà, je pense qu'il y a un vrai changement de mentalité là aussi à faire, en direction des professionnels, mais aussi en direction de la population où on peut leur dire, vous pouvez vous autoriser à. Et c'est vrai que cette phase de sensibilisation, nous, on la développe depuis maintenant 10 ans, ce dispositif. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des gens qu'on n'imaginait même pas, enfin même moi, hein, très honnêtement, il y a certains publics où je me disais, bon, ça peut le mettre en mouvement. Et en définitive, après un parcours, parce qu'après on leur propose un parcours universitaire alors qu'ils n'avaient jamais été à la fac, enfin moi, bon, c'est un dispositif un peu complet, mais du coup, on se retrouve avec des projets qui sont complètement hallucinants parce qu'on se dit, on l'a vu il y a un an, ce gars-là, j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu aller jusqu'au bout de ça. Et je pense que même lui, il n'imaginait pas. Donc voilà, ces agents de mobilisation, je trouve que c'est vraiment une belle formule et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre des gens, il faut leur donner envie, il faut leur. Faut aller les chercher, quoi.
Bon, n'hésitez pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Et puis sinon, merci beaucoup à tous d'être venus. Et je pense que ça a été assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai noté un tas d'informations. Et si vous voulez continuer la discussion autour d'un petit apéritif qu'on a préparé derrière, je vous y invite. Oui ?
Moi, j'aimerais savoir, pardon, tous les gens que je vois que je ne connais pas, vous êtes tous des habitants d'Aigrésion ? Ah, voilà. Ah, pardon. Ok, bah oui, mais je ne vous connais pas, excusez-moi. Je ne vous connais pas.
Ben, faites connaissance autour d'un verre. C'était ouvert à tous la rencontre ce soir. On n'est pas très sectaire.
Je ne fréquente pas le lieu encore là. Je sais. Enfin, je me doute, merci. Ah d'accord. Bon, voilà, mais j'aime bien savoir d'où viennent les gens, quoi. D'accord. Oui, voilà. Toi, ça va, j'ai pas demandé d'où tu venais, toi. Ok, bon, mais. Et à la suite de cette réunion, il se passe quoi ?
Bah, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, je restitue à chaque fois un peu tout ce qui s'est dit dans un cahier qui va être publié prochainement. Mmh. En version numérique, et on va voir si on tire aussi des versions papier, et on va encore en faire d'autres, des rencontres en fait, parce que le but c'est vraiment d'explorer toutes les pistes et avec tous les acteurs qu'il y a à Gennevilliers, il y a quand même un large panel, et pour au final, au bout d'un moment, dans la halle, il va encore y avoir une grande exposition cet hiver, mais suite à cette exposition, on va commencer en fait, l'objectif c'est de commencer à occuper les lieux avec des acteurs intéressés qui auraient des projets et de mettre en place cette gestion du lieu et ce partage du lieu entre les différentes personnes qu'on aura identifiées. Voilà. Locaux, oui, ça c'est l'objectif. Mais après, sur les thématiques, pour l'instant, on a exploré déjà d'autres thématiques sur le thème de l'alimentation, l'agriculture urbaine, là aujourd'hui plus des initiatives locales d'économie sociale et solidaire. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on a vraiment envie de explorer tout ce qui est possible. Et puis il y a aussi des gens qui viennent directement à la permanence pour donner des idées, des gens qui ont des projets, qui cherchent un local, d'autres qui voudraient s'associer à d'autres personnes. Et nous, on essaye d'être les personnes qui vont faire le lien entre tous ces gens et qui vont pouvoir faire remonter les informations pour que ça puisse se faire. Voilà. Merci beaucoup.
Cause commune. Des conférences comme si vous y étiez.